musique, cinéma, politique, social, environnement, santé, culture, sport. Tous les jours à 12h15 et 19h15, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.
Le prochain jardin du jeudi organisé par le collectif agricole de l'Île-Dieu aura lieu le jeudi 19 octobre à 17h au 32 rue Saint-Amand et aura pour thème comment bien préparer son jardin pour l'hiver. Bonjour Georges Birouf.
Bonjour Roland.
Tu es le président du collectif agricole.
C'est ça même, oui.
Bonjour Christy Cohen.
Bonjour.
Tu es la secrétaire du collectif agricole.
Voilà, je suis la secrétaire du collectif agricole et aussi c'est chez moi que ça va se passer, le jardin du jeudi, c'est le hasard, c'est la première fois que c'est chez moi. Voilà, donc volontiers et avec plaisir, j'accueillerai ceux qui viendront.
Georges et Christy, quelles sont les étapes afin de bien préparer son jardin pour l'hiver ?
Alors moi, je vais répondre Christy. D'abord parce que moi, je ne sais pas très bien, c'est pour ça que je le fais. Ce jardin du jeudi, c'est précisément pour recueillir les avis des uns et des autres. Plus on est nombreux et plus on a d'expérience et plus on peut échanger intelligemment.
Bon, moi, ces jardins du jeudi, c'est vraiment pour se donner des bons plans.
Ben oui, c'est pour dire, et toi, comment tu fais ?
Mm-hmm.
Et essayer et en tirer les conséquences. Et l'année d'après, une fois que ça a repoussé ou pas repoussé, on peut toujours, à ce moment-là, en tirer les conséquences.
Toi, Christy, personnellement, tu as un grand jardin ou plutôt un petit jardin ?
C'est un tout petit jardin, mais qui, cette année, m'a permis quand même d'avoir des framboises tout le mois d'août et début septembre, des tomates, des concombres, c'est des bêtes. Donc, ça me permet quand même de compléter ma nourriture, je dirais, avec des produits que je fais pousser moi-même, ça me fait très plaisir, et puis qui sont à la fois bonnes, mais décoratives aussi, parce que je trouve ça beau. Hein.
Georges, alors, comment bien préparer son jardin pour l'hiver, monsieur le jardinier ?
Oui, alors pour l'hiver, évidemment, voilà, on arrive on est en automne, et en automne, c'est la terre qui se met au repos, ainsi que les plantes. Hein. Donc, c'est la période où on dit que la sève redescend. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire, en fait, les plantes, les arbres ont moins d'activité. Donc, à cause de ça, c'est parce qu'elles ont moins d'activité que une des choses qu'on va faire à l'automne, ça va être de tailler les haies. Hein. Remettre les haies, parce qu'il y a toujours plein de branches qui ont poussé là où il fallait pas, donc on commence par tailler ces haies. Bon, on a tout l'automne pour faire ça, hein, mais il n'y a pas d'urgence. Mais c'est la période qu'il faut le faire parce que la sève n'est plus en activité montante beaucoup, quoi. Il y a toujours de l'activité, évidemment, mais elle est au calme.
Ensuite, la sève se met, on peut dire, en sommeil.
Voilà, la sève se met en sommeil. Après, qu'est-ce qu'on veut obtenir au printemps, en fait ? On veut obtenir au printemps une terre qui soit bonne à travailler, qui soit facile à travailler, et surtout qu'on ne se retrouve pas avec plein d'herbes qu'on va appeler des adventices, hein, qui ne sont pas forcément des mauvaises herbes, mais ce n'est pas celles-là qui nous nourrissent et qu'on veut cultiver.
Mmh.
Et il n'y a rien de plus fastidieux au printemps de reprendre ses outils, puis te dire, là, je voudrais bien semer des radis. Mais c'est plein d'herbes, donc il faut commencer par enlever l'herbe, etc. C'est pas intéressant de faire ça.
Un petit coup de Roundup et c'est terminé.
Ah, bien sûr, Roland.
Non, non.
Oui.
Je savais que ça allait vous énerver.
Bien
c'est
sûr.
Pour ça que je vous pose la question.
Oui, on sait bien que c'est une blague.
Enfin, moi, ça m'énerve pas. C'est juste que ça me paraît tout à fait ringard, si j'ose dire. Au sens où on n'a plus besoin, il faut trouver d'autres solutions. Et puis, c'est trop dangereux pour la santé et pour l'eau. Et pour, il faut arrêter, quoi.
Voilà. Donc, alors, quelques solutions qui nous permettent d'éviter ça.
Mm-hmm.
Hein, alors, on peut utiliser plusieurs produits. Alors, moi, j'en utilise plusieurs à la fois. Hein. Un des premiers produits que je dis, c'est le carton.
Le carton, simplement.
Le carton d'emballage. Alors évidemment, il vaut mieux prendre des cartons qui soient relativement grands. Hein, mais
par exemple, des cartons de frigo.
Des cartons de frigo, par exemple, oui, qui vont faire tout de suite 1 ou 2 mètres carrés. Donc vous étalez ça sur la terre. Et puis on peut mettre soit quelques roches dessus ou alors des morceaux de bois qui sont un peu plus lourds pour empêcher que votre carton s'envole dès le premier coup de vent. Et dessous ce carton, les herbes ne vont pas pouvoir pousser parce qu'elles n'auront pas de lumière. Donc, une herbe, il lui faut de la lumière. Elles vont germer, mais elles ne vont pas pousser. Donc, on va dire qu'on les supprime dans l'œuf, quoi. Hein. Et quand on va enlever le carton, on va se rendre compte qu'en fait, dessous le carton, ben, la vie microbienne, la vie des vers de terre, tous les insectes qui sont dans la terre, a continué. Mmh. Et que donc, le carton est même mangé par les vers de terre, puisque le carton, c'est ni plus ni moins que du bois. Hein. Donc, du bois ou du coton, des choses, enfin des fibres naturelles qui vont être mangées aussi par les vers de terre si on les laisse très longtemps. Si on a un carton qui est très peu épais, ben on risque de se retrouver au printemps, ça y est, le carton il a disparu. Donc ça, c'est une première solution.
Le carton, c'est du gruyère, on peut dire ça comme ça.
Il va se transformer en gruyère, oui, à un moment donné.
Christy.
Oui, je voudrais poser une question. Moi, avant de mettre le carton, j'avais envie cette année de mettre du compost. Éventuellement de mettre des feuilles qui tombent des arbres, de mettre du goémon. Est-ce qu'on peut mettre du goémon sous le carton?
Est-ce que ça a une utilité d'ailleurs, ce goémon?
Oui, le goémon a une utilité. C'était une des solutions à utiliser, mais on peut très bien, dessous le carton, mettre du compost. Ce serait très bien.
Ça a vraiment de l'utilité, ce compost?
Oui, bien sûr, parce qu'il va se mélanger à la terre, donc il va nourrir la terre pendant tout l'hiver.
Oui, c'est un engrais naturel. Hein.
C'est, voilà. Alors, le goémon, moi, j'utilise plutôt donc mettre une bonne couche de goémon, c'est-à-dire qu'on ne voit plus la terre, hein, c'est ça le principe, qu'on met sur la terre. Et puis, ce goémon, il a trois fonctions. Un, il va empêcher les herbes de pousser, parce que le sel, il n'y en a pas beaucoup, hein, le sel va empêcher l'herbe de pousser. Ça empêche en même temps la battance de l'eau sur la terre, c'est-à-dire que quand il y a des grosses pluies, c'est comme si vous receviez une gifle. Hein, mmh. Le goémon amortit le poids de l'eau.
Et l'eau ne stagne pas, non?
L'eau va s'infiltrer bien comme il faut. Et puis en même temps, on dit que le goémon est un engrais aussi bon que le fumier de vache.
Donc, en fait, tu mets ou bien du goémon ou du carton.
Voilà, l'un ou l'autre. Ou, là encore, une troisième solution.
Est-ce qu'on peut mettre les deux, carton et goémon? Est-ce que ça a une utilité particulière?
Non, parce que le carton, quand on met le carton, c'est pour empêcher l'herbe de pousser. Hein. Comme le goémon va empêcher l'herbe de pousser, c'est pas la peine de rajouter du carton.
Ça sert à rien de mettre des couches sur des couches sur
non,
des couches.
Non, okay. Non. Et puis, le carton, il a un inconvénient, par contre. Hein, c'est que quand il pleut... le carton, l'eau a du mal à traverser le carton quand même. Hein, donc
la solution de Christy, mettre du goémon, c'est plutôt une bonne idée.
Oui, du goémon seul.
Du goémon seul.
Et puis la troisième chose, c'est de mettre du broyat, hein, du broyat de végétaux qu'on peut donc soit on broie ses tailles de haies soi-même, soit on peut demander à un paysagiste d'aller chercher du broyat parce qu'ils en ont en stock. Hein. Peut-être même ou à la mairie, enfin surtout aux paysagistes. Et donc là, vous étendez une bonne couche de broyat. Il faut mettre, je dirais, au moins 3 cm hein, d'épaisseur.
Oui, mais excuse-moi, mais ça veut dire Christy. Que tu es obligé de l'acheter.
Là, tu es obligé de l'acheter, oui.
Mm-hmm.
Oui.
Ça, moi, je trouve ça un peu dommage parce que, en fait, j'aimerais bien pouvoir broyer ce que j'enlève de mes haies, la taille de mes haies. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de broyeur. Et un broyeur, ça coûte 400 €. C'est trop cher pour moi. Moi, je peux pas faire ça dans un mini jardin. J'ai même pas l'endroit où garder le broyeur. Donc, en fait, ça aurait été bien s'il y avait des broyeurs collectifs. Partager dans le quartier. Ça suppose qu'on amène ses branches, qu'on broie et qu'on ramène le broyat. Mais n'empêche que ce serait quand même drôlement utile, quoi. Ouais. Il faut qu'on y pense, je ne sais pas comment. Mais...
Oui, il faudra trouver une solution pour pouvoir broyer collectivement, parce qu'acheter des tout petits broyeurs qui...
Ça existe
dans le commerce, mais alors il ne faut pas être pressé, quoi. Hein. C'est vraiment, il ne faut pas avoir beaucoup de branches à broyer. L'investissement, pour moi, n'est pas forcément très intéressant.
Pour les lieux, vaut mieux aller chercher du goémon, comme tu le disais à l'instant.
Oui, on peut... Mais c'est pareil, il faut pouvoir le transporter aussi.
On est bien d'accord.
Tout le monde n'a pas les moyens de le transporter.
Christy, t'as pas l'air d'accord.
C'est-à-dire, si, je suis d'accord, mais le truc, c'est que quand tu as des haies et quand tu as des buissons et que tu tailles ou que tu as des choses à tailler, qu'est-ce que tu fais du produit de la taille? Tu vas pas l'exporter... tu ne vas pas l'amener à la Marège, c'est idiot, ils en ont trop. Ils ont trop là actuellement. Il faut absolument que chacun garde le plus possible chez lui, d'autant plus que c'est de la richesse puisque ça fait de la terre.
C'est pour ça que tu nous parlais de broyeur collectif.
Ben voilà, c'est pour essayer de garder les choses chez soi, quoi, pour pas amener les déchets tout le temps.
Mais Georges, tu as raison, tu as entièrement raison, Christy, là-dessus. Alors, après ça, c'est, disons, c'est préparer la terre l'hiver, et puis, mais il y a aussi des choses qu'on peut quand même encore, au jardin, planter, semer, qui vont passer l'hiver et qu'on va récolter soit au printemps, soit durant l'hiver. Et alors là, il y a quelques légumes qu'on peut encore semer, hein, il faut pas trop tarder parce que sinon la terre va être trop froide et les graines auront du mal à lever. Donc il y a les radis noirs. Mmh. On peut même encore faire même des radis roses, hein, qu'on mange au printemps, on peut encore en faire un petit peu maintenant. Mais les radis noirs, qui sont des plantes qui sont très très bonnes, et surtout au niveau, pas médicinal, mais presque, hein, c'est très sain.
Si, si, tu peux le dire.
Médicinal, donc. Il y a les salades d'hiver, donc les chicorées, qu'on peut encore planter maintenant. Il y a les fèves, que je conseille de semer maintenant, de telle sorte qu'elle pousse tout l'hiver. Ça ne gèle pas, la fève. Hein, ça ne gèle pas ici à l'Île-Dieu. Il ne fait pas assez froid. Et donc, au printemps, les fèves, elles vont pousser très vite dès qu'il va y avoir de la chaleur. Et elles seront, disons, on va pouvoir récolter des fèves avant que les pucerons ne les envahissent. Hein, c'est ça qui est intéressant. Parce que quand on les sème au printemps, les fèves, on les a un peu plus tard. Et les feuilles sont beaucoup plus tendres et intéressent les pucerons. Alors ceux qui ont passé l'hiver, les feuilles sont beaucoup plus dures et les pucerons, non, ils n'y vont pas. Voilà, donc il y a ça. Et puis, il faudra penser aussi des choses qu'on peut planter aussi l'hiver, qui sont ail, oignons, échalotes. Hein. Ça, c'est, disons, dès le mois de janvier, on va pouvoir, ou même décembre, pouvoir planter ça.
Pailler le potager, ça veut dire quoi ?
Pailler le potager, ça veut dire que entre les plants d'haricots verts, entre les plants de tomates, entre des plants de choux, eh bien, on met de la paille. Mmh. Bon. Alors, le problème, c'est qu'à l'Île-Dieu, la paille, on n'en a pas. Il faut la faire venir du continent. Ça, c'est un problème et c'est un coût. Si on met de l'herbe séchée, si l'herbe a été récoltée quand elle était en graines, il ne faut pas le faire parce que c'est comme si vous semiez de l'herbe dans votre jardin.
Ce qui fait que tous les efforts pour éviter les adventices et les herbes indésirables tombent à l'eau.
On est bien d'accord, on a bien compris, Christy. Merci bien de le préciser.
Il faut récupérer les tombes de gazon qui sont faites au printemps avant la montée en graines. D'accord ? Et donc, on fait sécher ces tombes de gazon et là, on peut s'en servir comme paillage. Là, on est sûr d'utiliser... un paillage qui ne contient pas de graines d'adventices, de mauvaises herbes. Voilà. Et l'intérêt du paillage, surtout, c'est que, à utiliser l'été, c'est que vous diminuez énormément la quantité d'eau.
Christy.
Parce que.
Oui. Oui, je voudrais poser une question, voir comment on peut faire. Je reviens sur la question du bois raméal fragmenté ou du broyat. Hein, parce que parfois, on utilise ça comme moyen de pailler, justement, de protéger la terre des intempéries, de la pluie et tout ça. Je pense qu'il faut préciser que dans le jardin, c'est très important de mettre du bois raméal fragmenté s'il est jeune, si le broyat est jeune de l'année. Il faut le mettre très tôt, à la fin de l'été ou en hiver, pour que la décomposition se fasse suffisamment longtemps. Avant que les petites plantes qu'on va mettre en terre commencent à pousser. Parce que sinon, il y a ce qu'on appelle la fin d'azote, c'est-à-dire que pour se décomposer, le broyat a besoin d'azote, et à ce moment-là, pompe l'azote et fait concurrence à ce qu'on va semer au printemps. Donc en fait, si on utilise, pour faire vite, il me semble que ce qu'il faut faire, c'est si on utilise du broyat, il faut le mettre plutôt, ou du BRF, il faut le mettre plutôt maintenant, que attendre le printemps. Donc, c'est bien un acte de préparation du jardin pour le début du printemps, quoi.
Georges, tu es plutôt d'accord ?
Ah, entièrement d'accord avec ça. Hein. L'histoire de la fin d'azote est très importante parce que sinon, on va se dire, mais je ne comprends pas, j'ai mis du broyat et mes choux, ils ne poussent pas. Ben oui, parce que c'est le broyat qui pompe l'azote qui est dans la terre. Donc, ça ne marche pas. Donc, le mettre maintenant et puis au printemps, on pourra le mélanger à la terre et planter ou semer.
Il faut aussi aérer le sol et désherber le potager.
Mmh. Oui, il y a toujours de l'herbe où il ne faut pas, dans un potager, évidemment. On a toujours envie d'avoir un super beau potager sans herbe. Mm-hmm. Bon, je dois dire que moi, dans le mien, il y en a de plus en plus. Hein, et que je la laisse. Parce que
Pourquoi tu laisses, Georges ?
À la fois parce que je n'ai pas le temps de l'enlever. C'est fatigant, la terre est basse. Et donc, j'essaye de limiter, surtout d'enlever les herbes qui vont donner beaucoup de graines et qui, si on laisse faire, vont envahir le jardin. Alors, je pense à des herbes folles comme l'amarante sauvage, hein, qui fait des millions d'herbes, de semences, je veux dire. Des herbes grasses là, qui aussi donnent beaucoup de graines, ça j'essaye de les couper avant qu'elles montent en graines pour pas que ça prolifère dans le jardin. Après, que dans vos allées il y ait des herbes, c'est pas très grave. Il faut savoir quand même que les racines des herbes, elles travaillent le sol et que sur ces racines il y a des champignons. Toutes les racines en fait des plantes sont couvertes de champignons et c'est grâce à ces champignons que les plantes peuvent se nourrir des aliments qu'il y a dans le sol. C'est les champignons qui font l'intermédiaire entre la plante et le sol. Donc, oui, il faudrait plutôt tondre dans les allées plutôt que d'enlever l'herbe. Hein.
Christy.
Pour ce qui est des herbes en question, bon, moi j'ai le constat que je peux faire dans un petit jardin comme le mien, entre le fait de désherber régulièrement et de replanter rapidement, eh ben, on élimine beaucoup le problème quand même. Ça ne veut pas dire qu'on l'élimine complètement, mais moi je sais que cette année, peut-être c'est grâce au carton, hein, que la petite surface où je cultive, ben, vraiment, je n'ai pas eu d'énormes difficultés. Et là maintenant, c'est sûr qu'en passant la grelinette pour aérer, tu parlais d'aérer la terre, moi j'ai utilisé la grelinette, c'est-à-dire dès qu'il a plu, à la fin de l'été, j'en ai profité parce que ça mollit la terre pour enfoncer pour enfoncer la grelinette et aérer la terre. Et du même coup, c'est très facile d'enlever les quelques herbes indésirables qui se sont implantées. Parce que effectivement, ça ameublit aussi la racine et donc on peut l'arracher facilement. Mmh. Et donc voilà, moi je sais que là, la grelinette m'a paru, j'ai beaucoup moins mal au dos. Même si ça m'arrive d'avoir mal au dos, évidemment, manque de bol. Mais la grelinette, ça permet à l'automne et aussi au printemps.
Pour les noms initiés au jardin, oui. La grelinette, c'est quoi ?
Alors, c'est un outil qui permet, on l'enfonce dans la terre. En général, il y a quatre pics, quoi. Mmh. C'est comme une fourche, hein, mais une fourche qui est droite, mais qui en même temps va nous permettre de peser dessus et on tire le manche vers soi pour aérer la terre sans la retourner. C'est ça le principe de la grelinette, ça permet d'aérer la terre, mais on ne la retourne pas.
Et c'est ça qui est important.
Et ça permet de moins se casser le dos à première vue, Christy.
Il y a cette raison-là, mais il y a d'autres raisons, et c'est surtout que pour favoriser la vie de la terre, aussi bien la vie de la terre à 10-20 cm que juste au-dessus, le mieux c'est de ne pas retourner la terre en profondeur parce que comme ça on laisse les petites bêtes, les auxiliaires, les insectes, les champignons, etc. qui vivent sous terre, sans air et sans lumière, on les laisse tranquilles hein, et elles font leur boulot. Et celles qui sont au-dessus, qui sont habituées, qui ont besoin d'air et de lumière, eh ben, on les laisse en haut. Et donc, du coup, la complémentarité entre tous les étages de la vie du sol, cette complémentarité est respectée.
Georges ou Christy, il faut réveiller son jardin à partir de quelle date ? D'ailleurs, si on dit bien, réveiller son jardin.
Oui, il se réveille tout seul hein, maintenant. on voit le changement climatique a des conséquences. Mm-hmm. Et de plus en plus, on est un peu décontenancé. Parfois, on se dit, tiens, on a des grosses périodes de chaleur au mois de février. Et tout le monde a envie d'aller faire du jardinage. Il dit, tiens, on va semer des radis, on va planter des pommes de terre et ceci et cela. Puis 15 jours après, on a un retour de froid.
Et là, c'est dramatique pour les plantes.
Exactement. Alors, je pense qu'il faut quand même respecter les saisons. C'est vrai que quelqu'un qui a un jardin, par exemple, avec un mur bien ensoleillé, à l'abri du froid, il va pouvoir planter des pommes de terre très tôt.
À partir de quelle date ?
Dès le mois de janvier. Hein. Mm-hmm. Parce que maintenant, il n'y a quasiment plus de gelée, sauf exceptionnellement. Mais c'est possible. Après, je pense que il faut, à l'île-Dieu, moi c'est mon expérience, il faut quand même essayer de planter et semer le assez tôt, c'est-à-dire au mois d'avril, il faut vraiment s'y mettre, quoi. Hein, parce que on a un problème après de pluie, d'eau, et que si on a des sécheresses comme cette année au mois de juin, eh bien, si on a planté ces patates trop tard, au mois de mai, elles vont rien donner parce que la terre sera trop sèche.
Christy.
Moi, avant de réveiller le jardin, ce qui me paraît important pour finir de préparer ce qu'on fait maintenant, préparer le jardin pour l'hiver, c'est qu'il faut penser à comment on va planter, c'est-à-dire dessiner en quelque sorte les endroits où on va mettre telle ou telle plante pour essayer de réfléchir à l'avance à la rotation.
D'ailleurs, c'est important, c'est la rotation ?
Oui.
Oui, pour pas épuiser la terre. Mm-hmm. Et ça permet de... disons que si on fait une bonne rotation, en principe, on essaye d'une année sur l'autre de prévoir que ce qui va être bon pour la terre en apport par rapport à ce qu'elle a vécu l'année d'avant. Mm-hmm. C'est-à-dire que il faut la protéger en quelque sorte et ne pas l'épuiser. Donc, pas toujours planter au même endroit les trucs. Après, il y a les plantes complémentaires, les fleurs complémentaires avec les légumes, etc. Donc, moi, je sais que le dessin du jardin, c'est quelque chose d'important. Et dessiner aussi, en quelque sorte, ça permet d'anticiper où on met les choses, par exemple, par rapport au soleil. Est-ce qu'une plante qui pousse très haut, il faut faire attention qu'elle ne cache pas le soleil aux petites qui sont derrière. Enfin, il y a plein de choses comme ça et on peut beaucoup augmenter, je crois, hein, d'après mon expérience, les rendements, hein, je dirais, du petit jardin en question. C'est trois fois rien, mais quand même, c'est sympa quand ça pousse. On peut vraiment optimiser beaucoup en faisant un bon dessin. Et aussi, dans la préparation, il y a vraiment un truc important aussi, c'est si on garde ses graines. Moi, j'ai besoin, là, et au prochain jardin du jeudi, le 19, j'ai vraiment envie de poser la question à tout le monde. Comment est-ce que vous faites pour garder vos graines? Et puis, on décidera d'une date ou échanger nos graines, parce qu'on peut se compléter d'un jardin à l'autre.
C'est important de mélanger les plantes, les fruits et les légumes dans un jardin?
Bah oui, il me semble.
Oui, oui, c'était pas un usage qu'on faisait autrefois, mais ça va
c'est
très
bien.
C'est
pour ça que je
pose
la question. Ouais.
Oui, oui, oui. Normalement, même il y a des plantes complémentaires les unes aux autres. Hein. On dit par exemple, hein, il faut mettre la carotte à côté des poireaux parce que la carotte rejette la teigne du poireau et inversement. Et puis, par exemple, on va mettre une plante qui va capter l'azote qu'il y a dans l'air, comme le haricot. À côté d'une autre qui, elle, a besoin d'azote et qui ne sait pas la capter. Donc, et mettre des fleurs. Les fleurs, ça fait venir les papillons, les abeilles. Donc, ça permet une meilleure pollinisation. Et puis, c'est beau. Hein, ça fait un beau jardin. On a envie de manger les légumes. Voilà.
Dans un jardin, on apprend tous les jours.
Tous les jours.
Christy.
Ah oui, ça, on apprend tous les jours. Oui, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas bien. Je dois dire que c'est un peu lent à mon goût, mais c'est une question d'âge aussi. Si on est plus jeune, on apprend plus vite. Moi, d'une année sur l'autre, j'apprends des choses, je note, j'essaye de faire mieux. Mais c'est surtout un grand plaisir. Et à propos
il faut que ça devienne une passion.
Oui,
il faut vraiment que ça vienne de la personne.
Oui, un plaisir, une passion, je ne sais pas. Oui, en tout cas, une occupation qui apporte du bien-être, hein, ça c'est sûr. C'est aussi pour les yeux quelque chose de très important. Parce que moi, j'ai remarqué que les amis qui viennent s'asseoir dans le petit jardin que j'ai et qui voient les tomates pousser, qui voient, par exemple, sur le compost, il y a des fleurs de courge, de courgettes, et des potimarrons qui ont poussé, mais en belle quantité. Alors, tout l'été, ça veut dire que le compost, parce que c'est un compost à ciel ouvert que j'ai, le compost est magnifique. Parce que ces énormes feuilles de potimarrons et de potirons sont extrêmement décoratives. Les fleurs jaunes, c'est une merveille, quoi. Il y a moyen aussi de dessiner son jardin, son compost, le coin à ceci et à cela. Voilà.
Christy, pour toi, un jardin, c'est un endroit zen. Ça te, ça te permet d'être plus sereine, plus zen.
Oui, moi, ça m'apporte effectivement de la tranquillité. Ça m'apporte des choses à manger. Ça m'apporte l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, que je suis inscrite dans le temps. Et malgré mon âge, eh ben, je sais que le printemps prochain, il y aura des choses qui pousseront.
Christy et Georges, les jardins du jeudi, ça rentre dans le cadre d'une île sans pesticides, non?
Ah oui.
Et la charte, une île sans pesticides.
Oui.
Voilà.
On peut rappeler un petit peu rapidement, qu'est-ce que c'est rapidement,
ben, la charte pour une île sans pesticides, c'est quelque chose qu'on a mis sur pied, on a écrit un texte. Hein, disons qu'en gros, chacun peut signer cette charte où y adhérer. C'est pas un engagement, c'est pas une adhésion avec de l'argent, etc. C'est juste un engagement moral. Mmh. L'idée d'aller vers une île sans pesticides, c'est quelque chose, je crois, que tout le monde a un petit peu à cœur maintenant. Tout le monde s'est rendu compte que c'était important pour la santé, pour l'eau, pour tout un tas de motifs différents. Et donc, les partenaires de la charte se sont multipliés les dernières années. Il y a l'association Yeux Demain, il y a l'association Les Croqueurs de Pommes, et il y a aujourd'hui donc la mairie aussi. Il y a une partie des agriculteurs de l'Île-Dieu, puisque...
Quelles sont les obligations de la mairie de l'Île-Dieu en signant cette charte « Une île sans pesticides » le 6 septembre dernier?
Il n'y a aucune obligation, il y a un désir commun, je pense.
Georges.
De toute façon, la mairie est astreinte à ne plus mettre de pesticides partout.
Il y a une loi,
donc il n'y a que deux endroits où il y a une tolérance pour mettre du pesticide, c'est dans les cimetières. Parce que notre culture en France, c'est qu'on n'aime pas l'herbe dans les cimetières. Moi, je trouve ça un peu dommage. Hein. Et puis, la deuxième chose, c'est sur les terrains de foot, parce que pour enlever certaines herbes, donc ce sont des herbicides sélectifs, bon, ou mettre de l'engrais chimique plutôt. Je crois que c'est surtout ça qu'ils font, ils mettent des engrais chimiques. Voilà, donc on peut dire quand même que la mairie, aujourd'hui, n'utilise plus de pesticides, quoi.
Et les magasins aussi, c'est pareil, la réglementation depuis le 1er janvier,
les supermarchés,
c'est qu'on ne peut pas vendre en libre-service les pesticides parce que ce sont des produits dangereux.
On vous rappelle que le prochain jardin du jeudi par le collectif agricole, c'est sur l'Île-Dieu, le jeudi 19 octobre à 17h au 32 rue Saint-Amand et a pour thème « Comment bien préparer son jardin pour l'hiver ». Merci Christy Cohen, à très bientôt.
Pas de quoi, et puis oui, à très bientôt.
Merci Georges Biro, à très bientôt.
Merci Roland et au 19 donc.
On se retrouve dès demain dans Je vous dis pas, et comme chaque mercredi, c'est spécial ciné avec les films projetés au cinéma. Il est en compagnie de Martine et de Fanny. À demain, au revoir.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale, du lundi au vendredi à 12h15 et 19h15 sur Neptune FM.